Bonjour, bonjour à tous. Mardi 31 octobre 2017, c'est aujourd'hui l'Halloween, mais c'est la semaine passée que nous avons joué au fantôme. Oui. Nous sommes de retour après une interruption d'une semaine à cause d'une petite panne de courant. Cette fois-ci, nous sommes bien là et bien prêts à vous délivrer nos nouvelles. Le fantôme que vous avez entendu, c'est ma collaboratrice Sylvie Dion. Bonjour,
bonjour.
Sylvie.
Bonjour.
Et moi-même, Louis de Bernis, et nous avons, comme d'habitude, comme tous les mardis, plein de nouveautés. Quel est le programme, Sylvie?
Mais tous les mardis, je vous parle d'alimentation, souvent assez sérieusement et souvent truffé d'interdits. Mais aujourd'hui, il y a un joli petit texte sur les bonbons, tout à fait de circonstance. Mm-hmm. Et avant ça, on va commencer en douceur avec la mode maison où le velours fait un retour.
Merveilleux, ça chante. De mon côté, pour les nouvelles insolites, nous aurons une imprimante de bijoux, également une note sur le bonheur et pourquoi pas aussi une mobilisation pour sauver un pommier. Tout ça est à découvrir dans quelques instants.
Alors, la douce revanche du velours. C'est un article de Christiane Desjardins dans la Presse Plus. Velours de soie, il a habillé les rois et fait le siège doux sous le popotin du haut gratin. Ça rimera pas tout le long, faites-vous-en pas, mais ça commence en haut de gamme.
Rimes, d'accord.
Velours de coton, il a vêtu les gueux, les preux et les poufs des 60s. Il a traversé les siècles en s'adaptant à l'ère du temps. S'il s'est éclipsé parfois, c'était pour mieux revenir, comme maintenant. Oyez, oyez, bonnes gens, le velours est de retour. Fake news, comme dirait un certain personnage, car le velours n'est jamais parti. C'est une matière qui a toujours été utilisée dans le haut de gamme, affirme Patrick Demers de Crescendo Tissus et Papier Peint. Ce qu'on remarque, ce qui est une tendance assez nette, c'est qu'on retourne tranquillement vers les choses plus traditionnelles. Et comme le velours est une matière traditionnelle, on en voit de plus en plus. Crescendo, cet établissement de la rue Sainte-Catherine-Ouest, qui ne vend qu'à des professionnels de décoration intérieure, fait la part belle au velours dans ses collections de tissus. On en trouve de diverses origines et compositions qui peuvent coûter entre 120 et 750 $ la verge ou le mètre. Les gens qui investissent autant veulent que ça dure. Ce qui est hyper tendance se démode rapidement, résume M. Demers. Chez Bonaldo, boutique de meubles d'importation située dans le Vieux-Montréal, le propriétaire, Louis Posé, assure lui aussi que le velours a toujours eu la cote malgré les tendances. J'ai envie de dire qu'il n'y en a pas, des tendances. On vit dans le multi-tendance. Il n'y a rien de laid, tout est dans la manière. Il y en a qui font des œuvres d'art avec des matériaux peu nobles, mais d'autres qui travaillent avec des matériaux extraordinaires et font des « schnouts », entre guillemets. Il y a quelque chose de riche et de réconfortant avec le velours, évalue M. Posé. Ça fait « viens t'asseoir, on va jaser ». Et c'est un tissu qui se modifie avec la lumière. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Chez Mobilia, maintenant, on est entré dans le velours à pas feutrés, avant de foncer. On a commencé à en voir l'an passé dans les salons en Europe, explique le président Johannes Kuhn. On a pris quelques pièces. Mais cette année, ça a été très fort au show de Milan. On s'est dit que c'était le moment et on a maintenant une panoplie de sectionnels, fauteuils, sofas et chaises d'accent. Il y a beaucoup d'évolutions dans la fabrication des tissus, soutient M. Kuhn. On a des velours mixtes très résistants et faciles d'entretien. Même les vrais velours, en fibres naturelles, sont plus faciles à entretenir qu'avant. Roche-Beaubois est réputé pour ses meubles en cuir, mais on y trouve aussi de belles pièces en velours. Il n'y a plus de velours maintenant, reconnaît Guy-Philippe Bélanger, directeur au Centre-Ville à Montréal. Les gens ne viennent pas spontanément pour ça, mais quand on en présente, ils aiment et ils achètent. Selon M. Bélanger, le velours est douillet, il apporte un côté luxueux aux meubles, il a des reflets, c'est vivant. On pense que c'est délicat, mais un velours de bonne qualité est très résistant. Dans le design, c'est « anything goes », illustre Suzanne Marquez, designer chez CM Textile. « J'aime le velours, mais je vais selon les besoins du client », explique-t-elle. « Ça dépend toujours de l'usage qu'on en fait. Est-ce pour une personne seule ou une famille avec des jeunes enfants ?» Et y a-t-il des animaux? Côté couleur et texture, le choix est infini. Le but, excusez-moi, on trouve des imprimés, des appliqués, des velours côtelés brillants, des mats ou des semi-mats. On peut avoir un divan d'une couleur neutre et faire le punch avec un fauteuil ou des coussins, de dire Madame Marquez. Le but est toujours d'aller chercher un point d'intérêt pour avoir un « wow ». Le velours séduit et ajoute de la classe à un décor. Mais il a aussi des contraintes qu'il faut accepter. C'est un tissu à flatter dans le sens du poil, littéralement. Il faut respecter le sens lors de la confection, car il ne reflète pas la lumière pareillement dans un sens ou dans l'autre. Et si on confectionne à l'envers, l'usure va faire que tous les poils vont se lever, signale Patrick Demers. Côté entretien, pour la poussière, on passe l'aspirateur sur les meubles de velours. En ce qui concerne les taches, ça dépend du tissu. Il y a beaucoup de techniques qui font que le velours est traité anti-tache ou anti-écrasement. On a ici un velours haute performance de coton sur lequel on peut renverser à peu près n'importe quoi et il ne tachera pas. On échappe un café, on l'éponge. Le velours n'est pas immuable, cependant. Il faut accepter que le velours de soie, par exemple, va marquer. La matière va prendre de la patine avec le temps, indique M. Demers. Mais encore là, ça dépend du velours et de sa hauteur. Le velours est velu, comme son nom, latin, villosus, l'indique. Velu d'un côté et ras de l'autre, c'est le principe. C'est la trame de fond, soit l'envers du tissu, qui lui donne sa souplesse ou sa fermeté. C'est en Orient que les premières pièces de velours auraient été créées, probablement au Cachemire. Au XIIIe siècle, les Italiens importaient le velours de Perse pour l'habillement et l'ameublement. Au fil du temps, ils se sont mis eux aussi à en fabriquer, notamment à Venise, Milan, Gênes et Florence. Ils ont enrichi les étoffes de soie avec des broderies et ont inséré des fils d'or et d'argent pour créer des velours de grand apparat. Les Français, très friands de belles étoffes, importaient les velours d'Italie avant de commencer à les fabriquer, eux aussi, vers le XVIe siècle. L'Espagne, l'Angleterre et d'autres pays sont devenus aussi de grands veloutiers. Des inventions, notamment celle du métier à tisser jacquard en France en 1804, ont amélioré la production. Les tableaux d'époque témoignent de la popularité du velours à travers les âges, à la fois dans l'habillement et dans l'ameublement. Autrefois réservé aux puissants, le velours s'est démocratisé avec le temps. Le velours côtelé, par exemple, apprécié pour sa chaleur et sa résistance, a été adopté par les ouvriers. Aujourd'hui, la soie, le coton, la laine et le lin sont toujours utilisés pour la fabrication du velours. Mais on le trouve également composé de matières synthétiques ou en mélange de fibres naturelles et synthétiques pour combiner les qualités de chacune. Alors, c'était le texte sur le retour du velours. Vous laisserez-vous séduire?
Un article moelleux qui réchauffe en cette matinée venteuse. Oui. Merci Sylvie. Je sens qu'il y a un thème pour aujourd'hui, pour les musiques, à voir, à vérifier.
Du velours vampirique.
Du velours. Après le velours, parlons d'or, d'une matière à l'autre, et je vais même vous parler d'une imprimante. Imprimante à bijoux. Ça se passe en France, du côté de Besançon. Après 12 heures de travail et 3,5 kilos de poudre d'or ingérée, l'imprimante 3D délivre son chef-d'œuvre. Un bracelet tout en légèreté et précision, issu d'une technologie encore expérimentale, mais qui pourrait révolutionner la conception de bijoux. Il ne faut pas éternuer, ironise Pascal Elie, alors que son collègue ouvre la machine et commence à épousseter le bracelet encore enseveli dans sa précieuse poussière. Ce bijou fait partie d'un ensemble de 10 pièces d'exception réalisées à Besançon, dans l'est de la France, dans le laboratoire de recherche France Éclat, le comité professionnel du secteur bijouterie-joaillerie en France. On est vraiment parti de rien. Il nous a fallu plusieurs années pour trouver les bons paramètres et des standards de qualité correspondant à la profession, résume le directeur technique de France Éclat. Si la technologie d'impression 3D dite additive, des couches de matière qui se superposent après une modélisation numérique, elle est largement utilisée dans l'industrie lourde, son application aux poudres de métaux précieux est en effet encore dans les limbes. Température du laser, composition de la poudre d'or atomisée, hygrométrie de la pièce, rien n'a été laissé au hasard, par les deux chargées d'études au fil de leurs expérimentations sur les machines, une allemande et une italienne, à leur disposition. Ces derniers mois, la petite équipe a tourné à plein régime pour imprimer, entre guillemets, 10 bagues, bracelets et pendentifs, sélectionnés à l'issue d'un concours auprès de designers de bijoux dans le but de montrer des possibilités inégalées de création. Alvéoles ou entrelacs, souplesse de la maille et des articulations, la technologie additive donne corps à des bijoux d'une délicatesse et d'une géométrie hors pair. Elle permet aux designers de dépasser leurs limites, estime Sébastien Fontaine, l'un des deux hommes aux manettes de l'imprimante italienne qui a la taille d'une grosse chaudière. On peut faire des bijoux qu'on ne pourrait pas réaliser avec des techniques traditionnelles. Par exemple, pour deux anneaux entrelacés, on doit prévoir deux pièces séparées puis les assembler. Avec la 3D, on réalise une pièce d'un seul tenant, tous les morceaux et leurs articulations sont imprimés dans le même temps. C'était le défi lancé par le concours, imaginer un bijou complexe en or qui ne soit pas ou très difficilement réalisable avec les techniques classiques de fabrication, soit l'usinage et la fonte à cire perdue. Les 10 pièces ont été exposées lors d'un événement professionnel mi-octobre à Paris et deux d'entre elles ont été primées, dont un bracelet manchette en or rose aux facettes ondoyantes baptisées Dune. On a utilisé environ 3,5 kg de poudre d'or pour ce bracelet et une fois poli, il pèse 64 grammes. Il est composé de plus de 2000 couches d'or de 15 microns chacune. Chacune des couches a été liquéfiée par un laser à 1700 degrés. Elles doivent être homogènes et le lien entre elles parfait. Mais au début de nos expérimentations, ça ressemblait plutôt à un gruyère, se remémore Pascal Elie. Après le succès de ces expérimentations, la prochaine étape serait de produire ici une plateforme technologique pour que les sociétés viennent tester la technique avant d'investir elles-mêmes dans une machine dont le coût est d'environ tout de même 200 000 euros, explique-t-il. Il y a des sceptiques dans la profession, mais il suffit de voir les bijoux qu'on peut réaliser. On n'en est qu'au début et c'est une révolution, mais surtout, cette technologie ne va pas remplacer les techniques traditionnelles, elle ouvre d'autres horizons. Le processus 3D comprend encore beaucoup d'interventions manuelles comme le polissage et les finitions, et la conception numérique implique aussi de la créativité humaine. Ce sont simplement de nouvelles possibilités d'expression, renchérit David Scher, auteur d'une récente étude sur le sujet pour le cabinet américain Smart Tech Publishing. Il met aussi en avant un travail moins intensif, la possibilité de modifier rapidement un modèle et aussi l'optimisation de la matière avec une perte réduite au minimum. Un détail qui a son importance quand le cours de l'or s'affiche à environ 35 000 euros le kilo. Voilà quand les nouvelles technologies rencontrent les arts anciens et les arts plus classiques, eh ben on peut arriver à faire de jolies choses.
Alors faut vraiment le voir comme un outil de plus,
mais ça laisse quand même des artistes. Oui, on ne va pas tuer les artistes,
non,
rassurez-vous.
Ben non. Ça prend un artiste pour utiliser l'outil.
Je suis le fort, je vous glace le sang.
Moi, je
je me glisse comme une ombre noire et je transforme vos rêves en cauchemars.
Tout le monde attend la prochaine surprise.
Si j'attends ce que l'aime sans bonbon ni trompette, si le chien a votre dos, vous le faites pas des yeux. C'est ça Halloween, c'est la vie du fric. Bienvenue à l'épouvantable épouvantable. À vos chats, c'est la bonne piste. Un mot sur le roi, y'a la garde. Et le roi, mais c'est cool, c'est ça. Halloween, 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 Halloween.
C'est la ville de la nuit. Les citrouilles chantent et les chauves-souris.
Bienvenue à Halloween, une pièce tirée du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film de 1993 réalisé par Tim Burton.
Oui. Avec de si beaux personnages. On va rester sur l'Halloween, une citrouille turquoise pour les enfants allergiques. Jusqu'à 8% des jeunes enfants québécois ont des allergies alimentaires. Pour leur permettre de vivre une Halloween en toute sécurité, Allergie Québec demande aux gens qui ouvrent leurs portes le 31 octobre, donc aujourd'hui, de prévoir des gâteries non comestibles à distribuer. Autocollants, crayons, balles aux motifs halloweenesques sont offerts dans les magasins à bas prix. Ces cadeaux plairont même aux enfants sans allergie qui reçoivent parfois trop de bonbons pour pouvoir humainement tous les manger. Pour signaler sa participation, la population est invitée à peindre une citrouille en turquoise. Il est aussi possible d'imprimer une affiche sur le site d'Allergie Québec. Et on poursuit sur les allergies. Les allergies font jaser au musée Armand Frappier. Le musée de Laval vient d'inaugurer sa nouvelle exposition « Les allergies font jaser », qui est destinée aux enfants et aux adultes. Les visiteurs sont invités dans un parcours thématique qui explore la nature des allergies, leurs causes et les façons de composer avec celles-ci. Le parcours propose des jeux numériques, des textes informatifs, des photos grand format, des capsules vidéo et les explications d'un animateur scientifique. Nous avons non seulement souhaité démystifier ce dérèglement du système immunitaire, mais nous avons aussi voulu susciter chez tous de l'empathie à l'égard de ceux qui en sont atteints, a indiqué dans un communiqué Guylaine Archambault, qui est la directrice du musée. L'exposition est présentée jusqu'en août 2018 au musée Armand Frappier à Laval. On passe maintenant au chiffre de la semaine, 175. 175, c'est le nombre de restaurants participant à la 6e édition du populaire Montréal à table, qui se déroulera du 2 au 16 novembre. Comme à l'habitude, il sera possible d'y profiter de tables d'hôtes à prix doux, soit 21, 31 ou 41 $ en soirée ou 15 $ pour le brunch, tandis que les établissements sont invités à mettre les produits régionaux en valeur afin de souligner le 375e anniversaire de Montréal. Afin de ne pas être laissé sur sa faim, il est recommandé de réserver ses places au plus vite. Les foodies sont d'ailleurs invités à publier leurs photos gourmandes sur les réseaux sociaux avec le mot-clic « Montréal à table ». MTL à table. Vous êtes plus près de Sherbrooke que de Montréal? Qu'à cela ne tienne, la 4e présentation de l'événement gourmand Sherbrooke met la table aura lieu du 19... Oh, pardon, je m'excuse, c'est fini! Ceux de Sherbrooke, j'espère que vous en avez profité. C'était du 19 au 29 octobre, qui sera certainement de retour l'an prochain. Et le concept est similaire à celui de Montréal à table. Surveillez les journaux de votre région. Ensuite, une compétition culinaire. C'est un jeune chef québécois, Benjamin Mauroy-Langlais, qui a remporté à Toronto le titre de meilleur jeune chef canadien lors des demi-finales de la compétition Pellegrino Young Chef 2018. Celui qui a travaillé dans les cuisines de l'hôtel Hermann avant de passer chez Auton, où il s'adonne à l'art de la boulangerie, s'est démarqué avec un plat de céleri rave en multiples déclinaisons, anguilles fumées et pain au levain maison. Ce plat me représente avec des ingrédients et techniques qui sont proches de moi. J'aime beaucoup l'anguille, un produit fascinant qui a été très important dans l'histoire culinaire québécoise, a-t-il confié à la presse. Prochaine étape, la grande finale à Milan en 2018. D'ici là, il peaufinera son plat et ses techniques en compagnie de son mentor, le chef Riccardo Bertolini. Et on termine sur la mode. Un mannequin de 69 ans chez CoverGirl. Lentement mais sûrement, les codes de la beauté changent, alors que la diversité corporelle s'affiche de plus en plus sur les podiums et dans les magazines. La marque CoverGirl emboîte le pas récemment en annonçant que May Musk, une mannequin canadienne de 69 ans, se joignait à son équipe. Dans le domaine depuis plus de 50 ans, cette femme a notamment posé pour la couverture du Time et du New York Magazine. Elle est aussi la mère d'Elon Musk, le fondateur de Tesla.
Sur cette musique lugubre de circonstance, je vais vous parler du bonheur, tranchons avec l'ambiance. Plus précisément, du secret du bonheur. Une note de Monsieur Einstein sur le secret du bonheur sera mise aux enchères et a été mise, puisque cet article date d'il y a 2 semaines. C'est à Jérusalem, 2 notes qu'Albert Einstein avait remises à un messager à Tokyo, décidément on parcourt le monde, dont une sur le secret d'une vie heureuse, ont refait surface 95 ans plus tard et ont été vendues aux enchères à Jérusalem. En 1922, le physicien allemand, célèbre notamment pour sa théorie sur la relativité, avait effectué une tournée au Japon où il donnait des conférences. À l'époque, M. Einstein venait d'être informé de sa prochaine désignation pour le prix Nobel de physique, et sa notoriété commençait doucement à se développer au-delà de la communauté scientifique. La scène s'est déroulée à l'Imperial Hotel de Tokyo, affirme aujourd'hui le vendeur de la précieuse note. Un coursier japonais arrive pour livrer un courrier au physicien. Nul ne sait s'il refuse un pourboire en accord aux pratiques locales ou si Einstein ne dispose pas de monnaie, mais le fait est que le physicien, pour ne pas le laisser partir les mains vides, lui remet 2 notes en allemand. Peut-être, si tu as de la chance, ces notes auront beaucoup plus de valeur qu'un simple pourboire, lui dit alors Einstein, d'après le vendeur, un proche du coursier japonais qui réside à ce jour dans la ville allemande de Hambourg. Sur l'une des notes, rédigé sur du papier frappé du logo de l'Imperial Hotel, est écrit « Une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès qui implique une agitation permanente. » Sur la seconde, apposée sur une feuille blanche, on retrouve le célèbre adage emprunté à Lénine « Là où il y a une volonté, il y a un chemin. » Inconnues jusque-là, des chercheurs, ces notes ont été authentifiées par la maison de vente aux enchères Winners. Elles n'ont pas de valeur scientifique, mais pourraient aider à mieux cerner les réflexions personnelles d'Einstein, dont le nom est devenu synonyme de génie, estime Ronnie Gross, chargé de la plus grande collection d'archives du physicien à l'Université hébraïque de Jérusalem. Ce que nous faisons ici est un portrait d'Einstein, l'homme, le scientifique, son impact sur le monde à travers ses écrits, poursuit M. Gross. D'après ceci est une pierre de plus à la mosaïque pour comprendre le personnage. Les 2 notes ont été vendues mardi pendant qu'ici nous étions dans une coupure de courant par la maison Winners à Jérusalem avec d'autres objets, dont 2 lettres écrites par Einstein à la fin de sa vie. Je suis allé regarder pendant que Sylvie nous lisait toutes ces brèves intéressantes et les 2 notes ont été adjugées pour, tenez-vous bien, 1,56 million de dollars. Voilà le secret du bonheur.
En chiffres. Pas pire pour boire quand même, quand finalement. Même. Passons maintenant au parfum. Tant qu'à rester dans le luxe et le temps, 1862 jusqu'à aujourd'hui, Roger Égalet est connu pour avoir commercialisé en 1862 sa légendaire Eau de Cologne, une formule secrète de famille composée de 18 essences naturelles. Trois siècles plus tard, la maison en propose une interprétation contemporaine avec ses extraits de Cologne. Pour l'occasion, l'entreprise a donné carte blanche à 5 grands parfumeurs qui proposent chacun leur interprétation de l'eau de Cologne à partir d'un ingrédient. Leur choix, verveine, néroli, tubéreuse, thé et cassis. Des jus, comme on dit dans le langage de la parfumerie, tout en fraîcheur, mais offrant une belle intensité et qui ont la particularité de contenir de 87 à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. On trouve ces parfums chez Jean Coutu à 80$.
Mobilisons-nous pour sauver un pommier, pas n'importe quel pommier, c'est à Londres que ça se passe. Le premier pommier Bramley du Royaume-Uni, planté il y a plus de 200 ans, est menacé de mort par un champignon de l'université de Nottingham. L'université se mobilise pour tenter de sauver ce symbole de l'identité nationale et culinaire britannique. En 1900, l'arbre père de tous les Bramley fut couché par une tempête mais survécut. Cette fois-ci, il est miné par un champignon armillaire et l'université de Nottingham projette d'acheter le cottage et le terrain où il est planté pour tenter de prolonger au maximum sa durée de vie. Les pommes Bramley sont notamment utilisées en cuisson pour les desserts et forment la base des tartes aux pommes depuis le 19e siècle. On parle donc d'un monument. Lorsque le premier pépin fut planté entre 1809 et 1815 par une petite fille, qui l'avait sans doute découvert au fond de son jardin. 40 ans plus tard, le nouveau propriétaire du cottage, un certain Matthew Bramley, toujours le même nom, permit à son jardinier de prendre des greffons pour le reproduire, à condition qu'il donne son nom aux arbres. De nos jours, il y a plus de 300 planteurs de Bramley qui produisent 83 000 tonnes chaque année, a précisé l'université. Les Bramley seront aussi utilisés pour la production de cidre. Mobilisons-nous. Nous prenons une courte pause musicale et ne bougez pas, nous sommes de retour avec Sylvie pour nos nouvelles insolites et intéressantes. À tout de suite.
Des bonbons, parce que les fleurs c'est périssable, puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8h. Moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai apporter des bonbons. Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras, les gens me regardent de travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. Je vous ai apporté des bonbons. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Oh oui, Germaine elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux, c'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez mille fois raison. Je vous ai apporté des bonbons. Et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue Mozart. Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté des bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine. Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton.
Le grand Jacques Brel, toute la folie de Jacques Brel avec cette pièce « Les bonbons », bien sûr, Halloween oblige les bonbons, quoiqu'il existe des alternatives, comme Sylvie nous le faisait remarquer un petit peu plus tôt.
Eh bien, on va voir que c'est un déguisement. L'article s'appelle d'ailleurs « Sous le déguisement des bonbons santé ». C'est Bernard Lavallée dans La Presse qui nous met en garde contre ces déguisements de bonbons, vu que les bonbons, c'est tellement bon, justement. Alors, ce soir, des milliers d'enfants déambuleront dans les rues pour ramasser une collection impressionnante de gomme à mâcher, de jujubes, de caramels, de chocolats et autres friandises. Or, même si cette tradition annuelle fait partie de notre culture depuis longtemps, les préoccupations des consommateurs à l'égard de la nutrition et de la santé se sont amplifiées. On trouve désormais des sucreries qui semblent plus avantageuses que d'autres, mais le sont-elles réellement? Bon, ce ne sera une surprise pour personne, les bonbons ne sont pas des aliments nutritifs. Ils représentent généralement une source assez concentrée de sucre, de colorants, de saveurs artificielles et parfois même de gras. Mais avant que les petits récoltent leur butin, c'est sur les adultes que tombe la responsabilité de remplir les coffres. Plusieurs aimeraient ainsi distribuer de meilleures options. L'industrie agroalimentaire l'a compris et elle s'est dotée de friandises à l'allure santé pour tirer quelques dollars supplémentaires des poches des parents et des voisins bienveillants. Ne soyez pas dupes, derrière ces costumes se cachent, grosso modo, les mêmes bons vieux bonbons. Je suis allée faire le tour de quelques supermarchés et pharmacies pour voir quelles étaient les tendances du moment en la matière. Contrairement à d'autres segments de l'offre alimentaire, les mots-clés utilisés pour conférer une aura santé aux friandises n'ont pas beaucoup évolué dans les dernières années. Sans gluten, sans gras, sans OGM, sans édulcorants artificiels ou sans colorants artificiels font encore partie des termes qui maquillent les emballages. La stratégie, ici, est d'attirer l'attention sur ce qui ne se trouve pas dans le produit pour éviter qu'on s'attarde trop à ce qu'il contient. Les mots « naturel » et « biologique » promettent de façon implicite des ingrédients de meilleure qualité. Mais la réalité, c'est que ces inscriptions n'ont aucune incidence sur la valeur nutritive des friandises. Non, votre corps ne fait pas la différence entre le sucre de canne biologique et le simple sucre. Plusieurs entreprises jouent aussi sur la présence de « vrais fruits » entre guillemets pour tenter de faire briller leurs produits. Par exemple, je suis tombée sur un sac de jujubes contenant des « super fruits » qui présentait des images de baies d'açaï, des bleuets, de canneberges. Pourtant, il suffit de regarder la liste des ingrédients pour réaliser que ces petits bonbons sont davantage constitués de sirop de maïs, de sucre et d'amidon modifié que de fruits. Et encore, le jus sous forme de jujube n'a rien à voir avec les fruits frais. Non, malgré les promesses des emballages, les bonbons santé n'existent pas. Mais on s'en fout! La seule raison d'être des friandises, c'est de goûter bon. Au contraire, vous avez un plus gros problème si les bonbons représentent une de vos sources importantes de nutriments essentiels. Comme la fête n'arrive qu'une fois par année, ce n'est pas grave de laisser les enfants en manger plus que d'habitude, le soir ou même le lendemain. Puis on range le trésor dans une armoire et les enfants peuvent en choisir quelques-uns au moment du dessert, s'ils le veulent. Notre obsession pour la nutrition, qui a réussi à se glisser à peu près partout, n'a clairement pas sa place au sein de cette célébration du sucre. L'alimentation, c'est beaucoup plus large que la santé. Elle se doit d'être une source de plaisir et elle est intimement liée à notre culture. Bien que ces trois notions ne soient pas mutuellement exclusives, elles ne vont pas toujours de pair non plus. Et s'il y a un événement qu'il démontre bien, c'est l'Halloween. Alors allons-y comme Jacques Brel, parce que les bonbons, c'est tellement bon.
Enchaînons non pas avec des bonbons, mais des probiotiques.
Pouvoir faire l'équilibre.
Exactement. Et en première partie, je vous parlais de sauver un pommier. Eh bien, cette fois-ci, sauvons un animal de circonstance, sauvons les chauves-souris. Des chercheurs canadiens mettront bientôt à l'essai une nouvelle tactique pour combattre une maladie qui a déjà tué des millions de pauvres chauves-souris à travers l'Amérique du Nord. Le temps commence vraiment à presser parce que ce champignon est à quelques centaines de kilomètres de Vancouver, explique Cory Lawson, une biologiste de la Société de la conservation de la faune du Canada. Il est très probable que cette maladie apparaisse ici ce printemps. Le syndrome du museau blanc a déjà été détecté dans 31 États américains et 5 provinces canadiennes. Il tue les pauvres chauves-souris qui hibernent en les forçant à se réveiller et à brûler de l'énergie pour se nettoyer. Les chauves-souris emmagasinent une quantité limitée de gras, dit Madame Lawson. Plusieurs mourront tout simplement de faim cet hiver. Et celles qui survivent jusqu'au printemps, ajoute-t-elle, ne font souvent pas long feu puisque le champignon ronge des trous dans leurs ailes. On tente actuellement de combattre la maladie en aspergeant les chauves-souris avec un fongicide naturel ou chimique. Il faut toutefois commencer par trouver où hibernent les petits mammifères. De plus, la technique ne semble rien faire pour freiner la propagation de la maladie et elle introduit des substances dans l'écosystème délicat d'une cave où elle pourrait avoir des conséquences indésirables. La maladie a été détectée l'an dernier au sud de Vancouver, près de Seattle, mais elle n'a pas encore été vue en sol canadien à l'ouest du Manitoba. « Il m'est devenu évident qu'on devait faire quelque chose de différent dans l'ouest », explique Mme Lawson. Si on peut se concentrer sur quelque chose qui préparera les chauves-souris à combattre le champignon, je pense que c'est à ça que nous devrions consacrer nos énergies. Sur les sites d'hibernation des chauves-souris dans l'Ouest, ils sont essentiellement inconnus. Les chercheurs savent où les trouver en été, suspendus dans des édifices ou des larges nichoirs où elles élèvent leurs petits. Madame Lawson et ses collègues ont mis au point une poudre qui contient des probiotiques, des bactéries qui se retrouvent naturellement sur les ailes des chauves-souris, et qui combattent le champignon. Cette poudre sera éparpillée à l'entrée des nichoirs dans l'espoir qu'elle enduira le corps des animaux. Ces bactéries sont déjà sur leurs ailes, rappelle Madame Lawson. On essaye simplement d'augmenter la densité de ces bonnes bactéries. En théorie, ces chauves-souris vont entrer en hibernation après avoir passé tout l'été à entrer et sortir des nichoirs, en s'enduisant de notre probiotique, un peu comme quand nous mangeons du yogourt. Elles vont arriver à leur site d'hibernation avec sur leurs ailes des microbes qui vont empêcher le champignon de se développer. Le groupe a identifié sur les ailes des chauves-souris 14 bactéries qui semblent prometteuses. Nous en avons fait la preuve en laboratoire, dit-elle. Les chercheurs doivent maintenant déterminer quelle combinaison de bactéries sera la plus efficace, quel cocktail pour les chauves-souris. Ils devront ensuite en tirer une poudre qui sera mise à l'essai au printemps. Madame Lawson espère que la poudre pourra être déployée dans les nichoirs de Vancouver l'été prochain. « Ça va vraiment très vite, avoue-t-elle. La disparition des chauves-souris nous prive d'un des principaux prédateurs d'insectes, comme les moustiques. La petite chauve-souris brune commune à l'Amérique du Nord peut gober chaque soir son propre poids en insectes. Non seulement cela rend-il nos barbecues plus plaisants, mais ça réduit aussi le besoin d'avoir recours à des insecticides chimiques. On utilise beaucoup de pesticides dans l'Est où le syndrome du museau blanc a frappé de plein fouet. L'abondance des insectes augmente quand les prédateurs naturels reculent et les chauves-souris sont le principal prédateur d'insectes pendant la nuit. Sauvons les chauves-souris.
en cette journée d'Halloween. C'est très approprié. Bon, on va passer des chauves-souris aux cafétérias scolaires. J'avoue que je cherche le lien, je le trouve pas. Habituellement, on arrive à lier nos articles, mais là... Alors, les cafétérias scolaires ont encore du chemin à faire. Ah, peut-être que les probiotiques pourraient être utiles. C'est un texte de Stéphanie Bérubé, dans la presse également. Il y a 10 ans, Québec imposait un virage santé aux cafétérias scolaires. Bye-bye les friteuses et les boissons gazeuses. Une décennie a passé... Force est de constater qu'il reste des pas de géants à faire, conclut une étude menée par la coalition Poids, appuyée par une 20aine d'experts en alimentation, en éducation et en activité physique. Depuis 10 ans, les recommandations alimentaires ont évolué. Les jus de fruits et le lait au chocolat trouvent de plus en plus de détracteurs dans le monde de la nutrition. En 2007, la politique cadre pour un virage santé à l'école recommandait le lait aromatisé. Considérant l'évolution des connaissances, cela devrait être révisé pour proposer seulement le lait nature dans l'offre régulière des écoles, incluant les programmes de distribution de lait, le service alimentaire ou traiteur, les distributrices et tout autre don ou vente alimentaire à l'intérieur des écoles, recommandait la coalition Poids dans son état de la situation publié la semaine dernière. En fait, il y a 2 ou 3 semaines. Idem pour les jus de fruits, dont les bouteilles sont souvent gigantesques, et même pour les jus de légumes. Malgré leur intérêt nutritif, plusieurs jus de légumes commerciaux sont trop riches en sodium. Certains de ces produits sont également sucrés par l'ajout de jus de fruits. Le rapport conclut que toutes les boissons sucrées devraient être retirées sans délai de l'offre alimentaire scolaire. Ça semble une évidence. Les écoliers doivent avoir accès à de l'eau. La coalition Poids recommande de subventionner l'installation de fontaines d'eau et de stations d'approvisionnement, garantissant un bon accès à l'eau dans toutes les écoles. De plus, il faut permettre aux élèves d'apporter leurs propres bouteilles, même en classe, afin qu'ils acquièrent le réflexe de boire de l'eau. C'est la saison des pommes à l'automne. Pourquoi ne pas établir un partenariat avec les producteurs québécois, qui ne demanderaient certainement pas mieux? La coalition recommande au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec d'établir des mesures d'approvisionnement privilégiées en fruits et légumes ou de subventionner leur achat par les écoles. C'est bien beau de sortir les friteuses. Si on ne propose pas des plats savoureux, les élèves préféreront toujours aller au resto du coin. Les mets proposés par les écoles, malgré leurs valeurs nutritives améliorées, ne sont pas toujours appréciés par les jeunes, particulièrement au secondaire, estime la coalition. Dans certains cas, il y a eu un recul dans la qualité de l'offre alimentaire. Certaines cafétérias ont ramené les vendredis pizzas ou les repas hamburger frites et les gestionnaires de cafétérias décident de faire compétition aux restaurants en s'inspirant de leur menu. Nos écoles n'ont pas été pensées pour accueillir autant de jeunes le midi. Avant, les enfants retournaient manger à la maison, constate Corinne Voyer. Résultat, les heures de lunch qui se prennent dans les corridors, rapidement, en rotation, dans de grands espaces en silence, ou même devant la télé. La coalition Poids recommande d'aménager des aires de repas conviviales et d'imposer un temps minimal de 20 minutes pour la prise des repas. Pour éviter les excès et des disparités significatives entre les milieux, le ministère de l'Éducation de l'Ontario, où il existe une politique alimentaire similaire à la politique cadre du Québec, a prévu des normes quantitatives concernant l'offre d'aliments non conformes à la politique lors d'événements spéciaux. Un maximum de 10 journées spéciales pendant l'année scolaire, au cours desquelles l'école n'est pas tenue de respecter les critères de la politique. La coalition Poids estime qu'on devrait aussi mettre fin à la vente d'aliments de mauvaise qualité pour financer des projets qui sont liés à l'école. Certaines écoles imposent des interdits. On fouille dans la boîte à lunch, on confisque des aliments et parfois on donne des punitions aux enfants. Les intervenants n'ont pas à jouer à la police de la boîte à lunch. Ce n'est pas le rôle de la politique cadre. Voilà cet article de la presse, donc, qui tirait sa source de Virage Santé 10 ans plus tard.
Revenons un peu à Halloween, parlons de clowns, mais de gentils clowns cette fois-ci, pas de clowns qui font peur comme dans certains films du moment. Des clowns apportent la thérapie du rire aux enfants Rohingyas. Bangladesh, avec leur pitrerie et leur mime, une troupe de clowns au nez rouge déclenche ce que l'on entend rarement dans les immenses camps de réfugiés Rohingyas du sud du Bangladesh, des rires d'enfants. Entourés par une foule enthousiaste, des acrobates rivalisent d'habileté sur fond de musique électronique. Le visage peinturluré de blanc, des clowns font des grimaces aux gamins. Ce cirque apporte une distraction bienvenue dans les cités de tentes surpeuplées. Des centaines de milliers d'enfants Rohingyas y vivent, traumatisés pour certains par les violences auxquelles ils ont assisté en Birmanie voisine. C'est hilarant, je n'ai jamais rien vu de tel, mes amis et moi ne pouvions pas nous arrêter de rire, raconte Mohamed Nour, 10 ans. Ce garçon a fui la Birmanie le mois dernier après la mort de son père dans les violences considérées par l'ONU comme une épuration ethnique. Avec sa mère et ses trois frères et sœurs, ils vivent dans un abri rudimentaire du camp de Kutupalong, où la vie se résume à survivre. « Notre seul but est d'amener le rire chez les Rohingyas », explique Rina Akhter Putul, acrobate et seule femme de la troupe de cirque. Des groupes de théâtre au Bangladesh se sont donnés pour mission de changer les idées aux personnes qui ont vécu une situation éprouvante, offrant, à travers leur performance, une thérapie du drame. Une troupe s'était ainsi produite pour les survivants du Rana Plaza, un atelier textile qui s'était effondré en 2013 en faisant 1100 morts. D'autres artistes avaient organisé des performances dans un village où 50 enfants étaient malheureusement morts dans un accident de la route. Faire rire les gens est une tâche difficile, particulièrement pour ceux qui ont perdu leurs parents dans le conflit en Birmanie. Les enfants constituent 60% des plus de 600 000 musulmans Rohingyas de Birmanie qui sont passés au Bangladesh depuis fin août, estime l'ONU. Beaucoup d'entre eux ont franchi la frontière seuls, ayant perdu leur famille dans les attaques de leur village de l'État birman, par l'armée ou des milices bouddhistes. Les ONG à pied d'œuvre dans ces camps de réfugiés s'inquiètent pour la santé mentale et les besoins émotionnels de ces enfants, parfois sous le choc. « Je suis sûr que notre spectacle vivra dans leur mémoire pour quelque temps. Cela n'effacera pas les cicatrices, mais ça leur redonnera le moral », avance Fakher Ali, un acrobate qui pratique la thérapie du drame depuis 2 décennies. Mais les enfants ne sont pas les seuls à apprécier ce divertissement. Dans l'assistance, nombre d'adultes sont venus eux aussi chercher un répit du quotidien sinistre et misérable des camps. La vie en Arakan, autre nom du Rakhine, cette région, est morne, explique Khairul Amin, un grand-père de 63 ans, au milieu de la foule se pressant pour apercevoir les forains. Il n'y a ni télévision ou cinéma ou théâtre, il y a cette peur constante d'être tué ou arrêté par l'armée. Assise avec son plus jeune enfant sur ses genoux, Rehanna rit et sourit de bon cœur aux bouffonneries des clowns. « Jamais de ma vie, je ne me suis autant amusée », s'exclame-t-elle. Voilà pour ceux qui redonnent un peu de sourire à ceux qui souffrent, et ça fait du bien ce genre de nouvelles.
Oui. Petite information, Julie Desgroseilliers, qui est nutritionniste, répond à une objection suite à on a parlé des cafétérias scolaires, et Jean-Sébastien, à la mise en onde, faisait remarquer que c'est plus difficile d'enrichir les aliments avec les allergies puis l'interdiction d'avoir des noix et arachides. Alors, comment éviter les noix et les arachides dans la boîte à lunch? De nombreuses écoles primaires les interdisent, étant donné les allergies alimentaires. Il existe d'autres choix tout aussi délicieux, accessibles et nutritifs. Il y a d'abord les haricots de soja grillés, qui se trouvent facilement en épicerie. Riches en protéines, ils représentent un choix nourrissant pour la collation ou pour ajouter une note croquante à une salade de pâtes. Pardon. Ensuite, il y a les graines de tournesol ou de citrouille, on va en avoir beaucoup dans les prochains jours, qui s'ajoutent bien aux recettes de galettes, muffins ou mélanges du randonneur. Les beurres de soya, de tournesol et de citrouille sont d'ailleurs délicieux, servis avec des quartiers de pommes ou de poires. Enfin, rappelons-nous que les fruits et légumes, le fromage et le yogourt sont dépourvus de noix et représentent des choix de collation à privilégier. C'est sûr qu'il faut se creuser la tête un peu, mais oui, il y a d'autres choses que les noix et les arachides, puis ça nous permet de découvrir de nouvelles saveurs.
Une petite histoire vraie et amusante. Je vais vous parler de Lulu. Lulu le labrador qui ne voulait pas renifler les bombes pour la CIA. La chienne entraînée pour renifler les explosifs était l'une des recrues les plus prometteuses parmi la nouvelle promotion de chiots. Mais la CIA a annoncé mercredi il y a 2 semaines avoir dû renvoyer Lulu, qui ne semblait absolument pas intéressée par l'exercice. Lulu va nous manquer, mais c'était la bonne décision pour elle et nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie, a ainsi tweeté la CIA. Dans un communiqué, l'agence a assuré que pour son équipe canine, il est impératif que les chiens apprécient le travail qu'ils effectuent. Parfois même, quand les chiots ont de bons résultats aux tests et qu'ils apprennent avec succès comment détecter les odeurs des explosifs, ils font savoir clairement que ce n'est pas une vie pour eux. Cela a été le cas pour ce Labrador Retriever après quelques semaines seulement. Parfois, le chiot s'ennuie et a juste besoin de davantage de temps de jeu ou plus de défis. Parfois, le chien a besoin d'une pause et parfois c'est un petit pépin physique comme une allergie alimentaire, détaille l'agence. Mais dans le cas de ce Labrador, il était devenu évident que le problème n'était pas temporaire. Même quand les entraîneurs pouvaient la motiver avec de la nourriture et des jeux pour chercher, elle ne s'amusait clairement plus. Lulu n'était plus intéressée par la recherche d'explosifs. Lulu vit désormais avec son entraîneur qui l'a adoptée. Sur une photo tweetée par la CIA, on la voit allongée sur un confortable tapis, peut-être en velours, aux côtés de son nouveau compagnon de jeu, Harry, un autre labrador noir. Une vie de chien.
Une vie de chien, on dit. Les chiens poussis peuvent avoir du style. Unleash, une nouvelle marque québécoise d'accessoires canins, fondée par Marie-Christine Carrière et Assoul Barry. La marque propose des colliers et des laisses de cuir au design très épuré, fabriqués à la main en Espagne. Des sifflets, une douce couverture en laine, ainsi qu'un shampoing à l'huile d'argan. Votre chien sera ainsi des plus élégants. Les fondatrices de la marque estiment que chaque promenade est une occasion unique de se distinguer.
Revenons et terminons un peu avec l'Halloween. L'article est un peu long, je n'aurai pas le temps de le lire en entier, mais y a-t-il vraiment besoin tant cela semble évident ? Les médecins rappellent que tout ce qui est tatouage dans l'œil, le globe oculaire, il faut s'en méfier. Ça me semble à moi assez évident et méfiez-vous-en. Donc contentez-vous de maquillage ou de peut-être de comment ça s'appelle pour mettre sur les yeux, c'est des lentilles.
Ah, les lentilles. Les lentilles. Il y en a beaucoup cette année.
D'Halloween, ça vous pouvez. Mais tout ce qui est tatouage, il y a un article dans la presse que vous pouvez découvrir qui met en garde contre ces pratiques. On ne sait rien encore de ce que ça peut faire à long terme. Méfiez-vous-en.
Et puisque nous allons manger certainement, en tout cas chez moi, oui, beaucoup de bonbons et de belles cochonneries sucrées, faut-il se brosser la langue? La plupart des gens ne savent pas que c'est important, constate le docteur Daniel Kandelman, professeur associé à la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Mais oui, confirme-t-il, c'est très important. Les petites rugosités à la surface et sur les côtés de la langue peuvent emmagasiner énormément de bactéries, surtout chez les adultes et encore plus chez les personnes âgées. Négliger le nettoyage de la langue augmente le risque de développer des caries à l'arrière, mais aussi d'avoir mauvaise haleine. Dès l'âge scolaire, on recommande de terminer le brossage des dents en brossant le dos de la langue de l'arrière vers l'avant. Pour les personnes qui ont la langue chargée, vous pouvez même utiliser un gratte-langue. J'ai réussi à nous finir ça avec quelque chose d'hygiénique.
On
et
termine
de santé.
Donc sur gratte-langue. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Sylvie
merci,
qui ne sera pas avec nous. Alors j'en profite pour vous saluer tout particulièrement aujourd'hui. vous allez voguer un peu vers d'autres horizons et qui sait, peut-être nous retrouvons, peut-être que nous vous retrouverons dans un temps proche, peut-être reviendrez-vous un peu du côté des voies de service.
Je vous prêterai l'oreille.
Avec plaisir toujours. Merci à Jean-Sébastien Liberté pour la mise en onde. Je serai pour ma part de retour la semaine prochaine avec Michel Audet, de retour du soleil avec ses nouvelles de voyage. L'émission s'arrête là, mais il y en a une autre qui suit. Restez ici avec Hélène Denis.